Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, le 27 novembre 1095, à Clermont, le pape Urbain II lança son fameux appel à la croisade au cours d'une de ses prédications. Nullement improvisé, cet acte correspond à un plan que René Grousset qualifiait de mûrement réfléchi à une époque où, comme nous le verrons, l'islam turc avait presque entièrement chassé les Byzantins de l'Asie. René Grousset disait même que la chute de Constantinople en 1453 avait été reculée de 3 siècles et demi grâce précisément aux croisades. Quel fut le contexte de cet appel de Clermont ? L'appel à la croisade était-il un appel à la conquête ou bien à la reconquête, ce qui n'est pas la même chose ? Quel personnage politique fut Urbain II ? Eh bien, pour évoquer toutes ces questions, un jour dans l'histoire reçoit Jacques Herz. Jacques Herz, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes historien, agrégé d'histoire, vous êtes un ancien professeur de la Sorbonne, ancien directeur du département d'études médiévales. Vous avez publié de nombreux ouvrages, je me contenterai de signaler tout d'abord celui qui est la charpente de notre émission, La première croisade, qui a été réédité chez Perrin dans la collection Timpus en 2002. Et il y a également le tout dernier ouvrage, Les négriers en terre d'islam, toujours chez Perrin, paru en 2003. Alors, la première question qui nous vient à l'esprit, si je puis dire, c'est pourquoi Clermont ? Pourquoi cet appel fut lancé dans cette ville qui, au fond, aujourd'hui n'est plus, je ne vais pas dire une petite ville, je vais mettre à dos les Clermontois, mais qui n'est pas une ville d'importance ?
C'est assez difficile. Vraiment, vous posez une question dès le début qui est, je ne dis pas abrupte, mais à laquelle on n'a pas de réponse pour une bonne raison, c'est que nous n'avons pas de documents. N'est-ce pas ? On voit ce qui s'est passé, on a, enfin certains historiens très attentifs ont reconstitué l'itinéraire d'Urbain II. Je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, la première chose à dire, je dirais, c'est qu'il n'a pas prêché ou très peu prêché en Italie. On oublie une chose considérable, c'est qu'Urbain II est pape, élu normalement, mais qu'il y a un antipape. Et cet antipape a l'audience, et même plus que cela, des empereurs allemands, qu'il tient donc, si vous voulez, l'obédience de tout l'Empire germanique et d'une très grande partie de l'Italie. Je vais ouvrir une parenthèse, mais je dirais que lorsque l'une des armées de la croisade veut passer par Rome et ses chefs allaient prier à Rome, ils sont mis dehors par les gens de l'antipape. Donc cela exclut déjà pour Urbain II, un terrain de prédication. Ensuite, oui, il passe en Provence, il ira plus tard en Touraine, il ira également beaucoup, beaucoup en Languedoc, Toulouse, toute cette région. Il finira, je le répète, par la Provence, mais le mot n'est pas juste, mais il ne pénètre pas dans le domaine royal. Il n'a pas prêché dans l'Île-de-France. Le roi de France est excommunié. Excommunié pour mœurs, pour adultère. Il y a eu des participants d'Île-de-France, mal connus d'ailleurs à la croisade, mais il n'y a pas eu de prédication. Donc, si vous voulez, le choix était relativement restreint. Et je dirais, là je vais être peut-être en tant qu'historien, très irrévérencieux, parce que, au fond, nous avons un document, nous avons des récits qui nous parlent de Clermont, il est tout à fait possible qu'il ait prêché ailleurs. Personnellement, je le crois.
Alors, nous reviendrons sur ce fameux appel de Clermont, mais peut-être avant tout, pour bien, j'allais dire, s'entendre sur les termes, dans votre livre, vous dites que la croisade a bénéficié d'une vision un peu simpliste. Et d'ailleurs, on devrait plus parler des croisades plutôt que de la croisade en général.
Ou plus que simpliste, n'est-ce pas ? Elle a été compliquée à l'extrême. Et ce qui est beaucoup plus grave, elle a été soumise à des interprétations tout à fait orientées. Maintenant, on nous parle de conquête, on nous parle de guerre sainte, par exemple. On pourra revenir sur ces deux mots, mais qui sont tout à fait faux. Et alors, je crois que le problème, et pourtant nous essayons tous, n'est-ce pas, en histoire, de tenir compte de cela, mais dès que cela passe dans un domaine beaucoup plus large, et en particulier dans le domaine de l'enseignement, il faut restreindre, il faut simplifier, il faut généraliser. Et on n'allait pas étudier les croisades les unes après les autres, n'est-ce pas ? En classe de 5e, on fait une leçon, c'est fini. Donc vous mettez ensemble 4, 5, 10, 20 expéditions qui n'ont souvent rien à voir les unes avec les autres. Et quand même, l'une est, vous venez de le dire, à la fin des années 1000, et il y en a encore eu en 1200 quelque chose. Donc nous avons deux siècles que vous mettez dans le même fourreau, je dirais, et c'est absolument anti-scientifique. Les choses ont beaucoup évolué de l'une à l'autre. Le mot, d'ailleurs, n'est pas de l'époque. Je le ferai très, très attention à ceci. Le mot croisade n'est pas appliqué à l'époque. Le mot que l'on emploie, c'est le mot évolué même. Si vous me donnez encore quelques instants pour m'attarder sur ces problèmes de sémantique, c'est...
Qui sont capitaux.
Capitaux, absolument. À l'époque dont vous parlez, c'est le pèlerinage. Les croisés, il n'y a pas d'autre mot pour les désigner qu'à part normands, bourguignons, etc., les pèlerins. Si vous vous placez, et là je connais mieux ensuite en ce moment, vers les années 1200 et quelque chose, après Saint-Louis même, encore, le mot qu'ils emploient, c'est le voyage d'outre-mer, c'est-à-dire l'exploit guerrier, l'entreprise guerrière à la limite de la quête de l'exploit chevaleresque et du conquête de l'amour de la dame. Finalement, on en arrive presque à ça. Donc vous avez une différence considérable entre les deux, n'est-ce pas ? Et moi, je m'insurge contre le fait de mettre tout ensemble. La première est une chose et nous en parlons aujourd'hui.
Alors la croisade ne se limite pas à un esprit aventurier, elle ne se limite pas non plus à une conquête, j'allais dire, dans l'esprit de la thèse matérialiste qui a prôné pendant des années.
Oui.
Qu'en est-il aujourd'hui de cette thèse ? Est-ce que l'historiographie a progressé ?
Beaucoup. Je crois que c'est abandonné. Vous voyez, c'est le problème aussi, vous êtes historien vous-même, nous essayons d'en parler tous ensemble. Il y a encore à l'époque, et malheureusement, je crois qu'on ne peut pas éviter cela, sauf par le biais d'une radio comme celle-ci, n'est-ce pas, qui va s'y employer, je pense, on ne peut pas éviter un tel divorce entre ce que l'historien écrit, ce qu'il a trouvé, entre, je dirais, le chercheur et même le pédagogue de tous les niveaux d'enseignement, et ensuite, ce qui est divulgué dans la presse commune. Même une presse de qualité, n'est-ce pas ? On ne va pas ici faire de personnalité, on ne va pas aller chercher des exemples, mais ce n'est pas croyable. Il n'y a absolument pour le moment rien à faire pour redresser ça. Donc, quand vous me posez cette question, est-ce que les choses évoluent ? Oui, dans le domaine scientifique. Non, dans le domaine, je dirais, commun.
Ouvrons une parenthèse, mais combien de temps une thèse telle qu'elle se développe dans l'historiographie aujourd'hui peut-elle apparaître dans les manuels d'histoire demain ?
Jamais souvent.
Jamais souvent.
Oui, tellement ancré, quelquefois oui, mais jamais. Je prends l'exemple de 1095, n'est-ce pas, qui a été célébré donc en 1995. Il y a eu deux colloques, tous les deux à Clermont. L'un par, j'étais ni à l'un ni à l'autre, mais l'un par des collègues plus jeunes que moi, travaillant, qui vont exactement dans le sens de ce que nous allons dire aujourd'hui. Et puis un autre, même chapeauté par un grand maître, mais un grand maître qui avait beaucoup, beaucoup écrit pour des ouvrages beaucoup plus généraux, qui était complètement dans l'erreur et, je dirais, dans les slogans habituels. Ils n'en sont pas sortis.
Alors vous, venons-en à votre thèse et à votre ouvrage « La première croisade », vous mettez avant tout le pèlerinage, la première croisade, dans un sens tout à fait religieux. Il s'agit d'une entreprise religieuse.
Ah, c'est une entreprise religieuse. Nous revenons, si vous voulez bien, un instant sur ce que vous disiez tout à l'heure, l'explication plus ou moins matérialiste. Allons très vite. Que serait-il allé faire ? Il n'y a pas, contrairement à ce que certains historiens allemands ont voulu montrer, il n'y a pas une surpopulation de l'Occident. C'est complètement stupide. Vous aviez des étendues immenses qui n'étaient pas défrichées. Les bastides étaient à peine construites. Les marais n'étaient pas défrichés. Donc il n'y a pas de recherche de terre. C'est absolument faux. Il n'y a pas non plus de la part des seigneurs de recherche, de conquête de grandes principautés. Vous imaginez le comte de Toulouse, qui est après le roi, le principal personnage le plus riche du royaume de France, il laisse tout et il ne retrouvera rien. Il va rester là-bas. C'était certainement beaucoup plus agréable de régner sur le comté de Toulouse avec le degré de civilisation et la richesse qu'ils avaient en eux que d'aller courir une aventure dont certains ne sont pas revenus.
Et on ne peut l'expliquer que par la foi.
On ne peut l'expliquer que comme cela, absolument. De même pour les Italiens, on vous dit, alors là je suis à mon aise parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup vécu et travaillé des années en Italie sur ces problèmes, les capitalistes, voilà le mot qu'on emploie, les capitalistes historiens n'avaient rien à faire en Terre Sainte. Vous savez, quand ils ont des systèmes économiques qui sont bien ancrés à Constantinople, qui est la reine du monde, ou même accessoirement au Caire et Alexandrie, ils ne vont pas s'en aller là-bas dans un pays où il n'y a rien. Jérusalem était un trou. Il faut bien dire les choses, ce n'était pas une ville d'industrie, ce n'était pas une ville caravanière. Ils sont allés combattre d'abord. Et le premier butin qu'ils ont ramené, ça c'est très clair, cela peut nous étonner parce que nous ne sommes plus dans cet univers mental, le premier butin ce sont les reliques des saints.
Venons-en donc à ce fameux pèlerinage. Il existe tout au long du XIe siècle déjà un réseau de pèlerinage.
Oui, qui est tout à fait en place, ce qui intéresse toute l'Église occidentale, tous les peuples d'Occident, mais qui a des formes diverses. On ne connaît assez mal, je dirais, tout ce qui se passait par voie de terre, parce que c'est diffus. Ça ne laisse pas beaucoup de traces, n'est-ce pas, à travers l'Europe centrale, l'Allemagne d'abord, l'Europe centrale, etc. Mais le pèlerinage maritime, qui est déjà un peu différent, ça coûte plus cher. Il faut déjà remarquer cela au stade où nous sommes de notre entretien. Passer par les Pouilles, essentiellement, par Bari, par Brindisi. Et puis, le grand port des pèlerinages de l'autre côté, et là c'est un périple beaucoup plus important, c'est Amalfi.
Y avait-il déjà des pèlerinages armés ?
Non, il n'y a pas eu, je suis absolument navré, il me semble que si je m'en mets un grand nombre d'années en arrière, j'ai dû même à un moment dire ça en faculté. Non, il y a une erreur là, une ambiguïté. Il y a eu un très très vaste pèlerinage, peu d'années auparavant, commandé en personne par 4 grands prélats allemands, n'est-ce pas, de Cologne, de Spire, etc., qui sont partis avec des foules de gens. Et cela a fait un peu illusion. On a pensé à une armée. Non, ils étaient extrêmement nombreux. Ils sont arrivés sans trop de mal et ils se sont heurtés quand même aux Turcs à un moment. Et là, ils ont employé des mercenaires et se sont armés eux-mêmes. Donc il y a eu, à la fin de ce pèlerinage, c'était la seule expérience. Autrement, non.
Vous insistez beaucoup sur le thème de reconquête plutôt que de conquête. Il y a une présence musulmane qui est au sud de l'Espagne. Il y a aussi une présence musulmane au sud de l'Italie. Mmh. Quelle est la position, j'allais dire, géopolitique, militaire de tout cet ensemble ?
Eh bien, moi, je suis très heureux que vous me posiez la question, si j'ose dire, parce qu'une des choses qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans cette façon d'écrire générale l'histoire, je parlais de magazines, de journaux ou même de beaucoup de radios, on dit, ou même quelquefois dans une radio religieuse, pas catholique mais religieuse tout de même, j'ai entendu dire, n'est-ce pas, croisade égale conquête. Et puis par contre, alors quand on parle de l'Espagne, tout le monde dit reconquista, la reconquête. Je ne vois pas pourquoi faire la différence, n'est-ce pas ? Il était certain que, si vous voulez, les pays qui ont été repris, Jérusalem, Antioche, etc., au cours de cette croisade, avaient été, plus que l'Espagne même, les berceaux de la civilisation chrétienne. Qu'ils avaient été chrétiens pendant très longtemps, partis de l'Empire byzantin pendant très très longtemps, il n'y a pas de doute. Grousset, nous avons le livre devant les yeux, n'est-ce pas, l'a très très bien montré, lorsque les croisés arrivent devant Antioche, les musulmans sont maîtres d'Antioche. Mais on ne le trouve dans aucun livre ordinaire. Ils sont à Antioche depuis moins de 15 ans, car la ville avait été un siècle et demi reconquise par les Grecs. Donc, si vous voulez, le fond de ma pensée ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Je dirais que dans la mesure où il y a de la part de nos croisés d'Occident, n'est-ce pas, ces gens de Lorraine, de Normandie et d'ailleurs, dans la mesure où il y aurait, je ne dis pas une usurpation, mais une conquête, ce n'est pas une conquête contre les musulmans, c'est une conquête contre les Byzantins. Car au fond, ce qui aurait été dans la logique des choses, c'est d'aller aider les Grecs à retrouver ce qu'ils avaient. Et là, c'est un fond de question très grave. Parce que c'est le début des embrouilles, n'est-ce pas ? C'est le début des malheurs, en réalité.
Alors nous allons venir à ces malheurs et à ces embrouilles après une première pause, si vous le voulez bien, Jacques Hers. Un jour dans l'histoire vous reçoit pour évoquer l'année 1095 et le fameux appel de Clermont, le pape Urbain II qui appelle à la croisade. A tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Nous nous retrouvons avec Jacques Hers pour évoquer l'appel de Clermont en 1095, l'appel d'Urbain II à la croisade. Alors Jacques Hers, nous venons d'évoquer l'Empire byzantin. Quelle est la place de l'Empire byzantin à cette époque ? Car nous, finalement, nous avons une vision très occidentalisée des choses et nous avons tendance à oublier qu'il existait un empire. Et mon Dieu, quel grand empire !
Effectivement, nous l'oublions parce que c'est très loin de nous. Et effectivement, moi, je m'efforçais, en parlant à mes étudiants, et maintenant, lorsqu'il m'arrive d'écrire ou de reparler comme aujourd'hui, de le dire, nous sommes partis d'une erreur qui est celle-ci, c'est de dire que l'Empire romain a chuté en 400 et quelques, n'est-ce pas, au moment de l'invasion des barbares contre Rome, la chute de Rome. Non, il n'a pas chuté. Il est resté en Orient, tel qu'il était. Byzance, on l'appelle Byzance, appelons-le l'Empire grec tout aussi bien, et l'héritière directe. Alors cela a été toute une affaire, très occultée. Cela a créé un malaise sans arrêt parce que les reconstructions de l'Empire en Occident, vous les connaissez, n'est-ce pas, comme moi, Charlemagne, puis ensuite Othon Ier, Othon II, etc. Ces gens-là recréaient un empire, se voulaient les héritiers de Rome, empire romain germanique, et ont tout fait pour qu'on oublie qu'il existait les Grecs. La littérature, ce n'est pas moi qui l'ai étudiée, elle a été faite par un de mes collègues, professeur d'allemand justement, enfin historien aussi de l'Allemagne. Toute la littérature, je dirais, germanique de l'époque, ignore les Grecs et les présente comme des usurpateurs. Alors, je réponds mieux à votre question. Cet empire existe. Il tient, nous dirions, en gros, à l'époque où nous nous plaçons. Donc, nous disons 1080, 1090, ou à peu près. Il tient encore une grande partie des Balkans, toute la Grèce, bien entendu, toute l'Anatolie, pour le moment. Voilà, c'est cela. Plus les îles, évidemment, toutes les îles de l'Égée, les Cyclades, etc., tout ce coin-là. Bien. Mais il a subi déjà. Cela a commencé il y a 20 ou 30 ans auparavant. Il a subi une invasion des Turcs d'un côté, et puis surtout, il a perdu, puisque je ne les ai pas cités à l'instant, lors de la conquête arabe beaucoup plus tôt, toute l'Égypte, la Syrie, la Palestine. C'est énorme, n'est-ce pas ? Il n'est pas le seul. L'Empire perse a sombré aussi. L'Afrique du Nord va sombrer, l'Espagne aussi. Mais il a réussi à un certain moment, dans les années 900, à reconquérir une grande partie de tout cela. Il n'est pas allé à Jérusalem. Les empereurs grecs n'ont pas repris Jérusalem, mais ils ont repris Antioche, Tripoli même.
Est-ce qu'on peut parler en conséquence de préfiguration, la croisade ?
Ah oui, ils allaient effectivement, si vous voulez, tout ce qui était pour eux infidèle, qui avait pris ce qui était chrétien, ils allaient le prendre. En 600 et quelque chose, ils sont allés en Perse, n'est-ce pas, reprendre le bois de la croix qui avait été emmené par les Perses. C'est la même chose, là. Et quand ils ont réussi quand même à pousser très, très, très fort vers le sud, je le répète, ils n'ont pas repris Jérusalem, mais ils ont obtenu une sorte d'accord avec les musulmans qui n'étaient pas des Turcs à ce moment-là, avec les musulmans pour développer les églises, les monastères, Bethléem, le Saint-Sépulcre et toutes les églises. C'est l'anarchie causée dans les années 1050 par l'invasion turque qui a ruiné les pèlerinages. Et la raison profonde, et le peu que nous savons, car nous ne savons pas tout, du discours d'Urbain II, est ceci, il insiste longuement sur les malheurs des pèlerins. Et en particulier sur les malheurs, nous allons y venir tout à l'heure, vous voyez, sur les pèlerins pauvres, qui ne peuvent pas payer les taxes.
Il y a des liens politiques entre Urbain II et Byzance ?
Je ne pense pas. Pas beaucoup. Il y a des ambassadeurs. Alors le problème, là, d'une façon, je pense, un peu indirecte, vous le soulevez, j'ai cru moi-même à ceci, Urbain II, n'est-ce pas, est dans ce que nous appelons la réforme grégorienne. Il succède, pas directement, mais à très peu près, à Grégoire VII. C'est-à-dire qu'il remet la main sur l'Église.
C'est une vaste démarche réformatrice.
Ah oui, il réforme les mœurs de l'Église, et sur la simonie en particulier, n'est-ce pas ? Ça, très nettement, il réussit assez bien à affranchir l'Église de l'emprise des empereurs germaniques, et on pouvait penser, je confesse que je l'ai moi-même un peu pensé, qu'un des buts, à partir du moment où il a réussi cela, c'est de forcer la réunion avec Constantinople, et en particulier d'abolir le schisme qui s'était, en 1054, n'est-ce pas, affirmé.
Vraiment, ce sont deux mondes séparés. Le monde de Constantinople et le monde de Rome sont deux mondes qui ne se ressemblent pas du tout.
Oui, là, nous serions obligés de parler un peu du dogme et de la fameuse affaire de Filioque, n'est-ce pas, qui est très grave, la procession du Saint-Esprit. Et les deux églises se sont séparées. On peut invoquer quantité de choses, les mœurs n'étaient pas les mêmes, la liturgie n'était pas la même, la condition sociale des hommes d'église, des prêtres en particulier, n'était pas la même non plus. Et puis, ils se sont heurtés sur, en particulier, le credo, n'est-ce pas, sur la personne du Christ elle-même, se traitant alternativement, je dirais, ou réciproquement plutôt, d'hérétique. Et donc la rupture du schisme en 1054 est très dure et on n'en sortira pas.
Oui, donc ça c'est vraiment présent à l'esprit. Mais alors d'un côté, est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'un côté le patriarche de Constantinople, le pouvoir religieux, de l'autre côté l'empereur qui lui fait un appel du pied à Urbain II ?
Oui, c'est à peu près cela et ça n'a pas cessé. De temps en temps, vous avez des empereurs qui ne transigent pas, qui sont terribles et qui sont avec leur patriarche. Et qui sont très hostiles à Rome. Mais à partir du moment où l'empereur a une vue plus générale de sa politique, et pour être malveillant, on pourrait dire surtout à partir du moment où il a besoin d'être secouru, à ce moment-là, il se rend compte qu'il faut l'aide de l'Occident. C'est évident. Quand même au temps de l'Empire romain, il n'y avait aucune sorte d'expédition militaire active en Orient sans que les armées de Rome elles-mêmes participent. Donc, ils sont dans cette tradition, ils font appel à l'Occident, mais il y a cet obstacle.
Alors, vous expliquez dans votre livre, pour revenir aux Turcs, vous expliquez qu'il y avait une division, il y avait de nombreuses tribus à l'époque qui étaient géographiquement situées au niveau de la Palestine, et que cette division a permis, au fond, bon, sans empiéter sur le futur, à la croisade de véritablement arriver à son but. Quelle est la position politique de cette région ?
Oui, ce serait tout un exposé, et je ne suis pas vraiment compétent. René Grosset le faisait très bien dans ce gros livre. D'abord, vous avez raison, les Turcs sont divisés. Et en particulier, on ne parle pas encore des Ottomans, par exemple, qui seront l'une des tribus reines beaucoup plus tard. Donc il y a un pouvoir central. Mais surtout, si vous voulez, ce ne sont pas des Arabes. Donc déjà, tout ce qui était avant eux arabe, on pourrait dire, reste en place. Et vous avez, à tel ou tel endroit, à Bagdad même, dans une certaine mesure, mais surtout en Palestine et en Syrie, Antioche, etc., vous avez des émirs arabes, que les chrétiens appellent souvent des morts, ou à peu près. Et puis surtout, alors à la même époque, et cela encore, il faut beaucoup insister là-dessus, je crois, vous avez les Égyptiens qui sont complètement en dehors des Turcs, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec eux. Et lorsque, je parlais d'Antioche tout à l'heure, mais parlons maintenant de Jérusalem. Lorsque les croisés arrivent devant Jérusalem, ils se battent non pas contre les Turcs, mais contre les Égyptiens. Les Égyptiens sont là. Ils n'ont repris Jérusalem contre les Turcs que l'année d'avant. Ils sont là depuis un an, pas plus. Donc il y avait une guerre terrible entre le pouvoir égyptien et ses envahisseurs turcs. Et au début, les croisés ont été aidés par les Égyptiens. Mais évidemment, quand ils se trouvent là, et l'on parle, alors là j'anticipe un peu, beaucoup même, on n'a pas vraiment tort, mais là il faudra analyser un peu mieux les choses, des massacres perpétués par les croisés quand ils entrent dans Jérusalem. L'année d'avant, les Égyptiens avaient fait la même chose contre les Turcs. Le sac d'une ville, un siège d'une ville ne se termine pas souvent très bien.
Alors, nous avons, si vous me permettez cette expression, planté ce décor, d'un côté Byzance, de l'autre Rome, et enfin les Turcs. Venons-en à l'appel de Clermont. Nous sommes le 27 novembre 1095, et en fait cet appel arrive 10 jours après le début d'un concile, et ce concile, on peut le replacer d'un point de vue général dans tout ce mouvement, dans toute cette démarche réformatrice en Occident.
Oui, une démarche réformatrice des clercs, des hommes d'église et des laïcs aussi. Ça s'inscrit tout à fait dans toute la volonté, mais très ferme, très fermement exprimée et généralement couronnée de succès, de l'Église pour introduire dans les mœurs laïques le respect de certaines règles morales. Alors c'est le moment, comme vous le savez, n'est-ce pas, de la paix de Dieu et de la trêve de Dieu qui a été à nouveau dans ces conciles remis en question, mais qui était vraiment dans l'air des temps. C'est quelque chose de considérable, n'est-ce pas ? Quand on nous
cela parle... avait un impact social d'une grande ampleur.
Ah oui, moi je suis très frappé quand on... Là encore, je vais...
La paix de Dieu, peut-être rappelons pour nos auditeurs, c'est le fait que les hommes d'Église demandent au Seigneur de ne plus faire la guerre certains jours.
Ça, c'est la trêve.
La trêve de Dieu.
La trêve de Dieu, oui. Alors là, on a ironisé en disant, oui, on ne peut pas le vendredi parce que, ni le dimanche, mais ni le samedi. Oui, il restait 3 jours. Ça pouvait leur suffire. Non, le plus important, c'est ceci, c'est de dire que vous n'avez pas le droit, n'est-ce pas, d'attaquer les faibles, ni les femmes, ni les enfants, ni les hommes d'église, bien sûr, monastères, etc., ni les hommes non armés, c'est-à-dire on n'attaque pas les paysans. Et là, je l'ai écrit récemment dans un article que l'on m'a demandé, et dès que j'en ai l'occasion, et je la prends aujourd'hui, je rappelle la chose, on nous parle de la barbarie ou de la violence des mœurs féodales, ah non, remise en ordre par cette paix de Dieu, et vraiment les coupables condamnés très durs, très durs. Eh bien, la guerre féodale était quelque chose d'infiniment moins dur que la guerre, je dirais, moderne, où dès Louis XI, n'est-ce pas, donc 1400 et quelque chose, dès Louis XI, vous avez des instructions du roi pour dire « vous allez détruire les champs, vous allez terroriser les populations, vous allez brûler les villages » pour que ces populations apeurées fassent pression sur leurs princes pour qu'ils demandent la paix. C'est ça la guerre moderne. La guerre féodale, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est la guerre entre guerriers, n'est-ce pas ? Et l'Église a joué là. Et c'est une des raisons qui a fait que lorsqu'il prêche la croisade, il a des auditeurs. Il y a des gens qui sont prêts à entendre ce qu'il a à dire au nom du Christ, ça c'est sûr.
Vous êtes sur Radio Canal Académie, un jour dans l'histoire, reçoit Jacques Herz qui évoque pour nous cet appel à la croisade, l'appel de Clermont. Donc nous sommes le 27 novembre 1095 et comme vous le disiez en tout début d'émission, nous n'avons absolument pas de texte sur ce fameux appel et au fond, nous avons des chroniqueurs qui, eux, évoquent cet appel, mais le texte en lui-même, nous ne le possédons pas.
C'est souvent le cas, n'est-ce pas, bien entendu. Là, je voudrais dire qu'on peut s'en tenir à des généralités et se dire qu'au fond, comme l'on n'entre pas trop dans le détail, ce qu'il a demandé est très clair. Armez-vous, armez-vous. Ça, il fait appel aux armes, il n'y a pas de doute, n'est-ce pas? Et allez, le mot est celui-ci, délivrer Jérusalem. Je crois que c'est à peu près cela. Mais surtout, il a semble-t-il. Parce que ce texte-là n'est pas connu, mais on en connaît d'autres, qui ont été ensuite dans les prédications des évêques et d'autres personnes, et d'autres gens d'église et même de laïcs. Ce qu'il dépeint, c'est les malheurs des pèlerins, de ceux qui ne peuvent pas les prier. Là aussi, on dit quand même, on trouve que c'est une conquête, que c'est un... Non, mettons-nous à la place de ces chrétiens d'Occident qui ne peuvent pas aller prier ce qui a été, n'est-ce pas, le cœur de leur religion. Et aucune religion ne s'est trouvée dans cette situation. Aucune, à aucun moment, ou rarement, en tout cas jusque-là. Donc, par conséquent, ils veulent au moins cet accès. Et pour eux, ce pèlerinage a été très, très, très important. Enfin, il ne faut pas oublier quand même, tout à l'heure, nous parlions des pèlerinages maritimes. Eh bien, que le premier, j'allais dire, ordre religieux, celui qu'on appelle de Saint-Jean de Jérusalem, n'est-ce pas, a été fondé par des gens d'Amalfi pour accueillir dans un hospice, disons, face au Saint-Sépulcre, les pèlerins d'Occident malades et pauvres. Alors, nous allons en reparler certainement tout à l'heure. L'optique occidentale est celle-ci. Le pèlerin est homme de Dieu. On doit le protéger. On doit le nourrir. Alors, tout Saint-Jacques de Compostelle aussi, tout ça, nous savons. Et puis voilà, lorsqu'ils vont en Orient, ils se font taper dessus et puis exploiter. Et il faut que les bourses soient pleines. Et ça, ils ne l'ont pas toléré.
Alors, cet appel, peut-être ouvrons une parenthèse sur ce personnage qui est Urbain II et passé par un ordre qui est très important à l'époque, qui est l'ordre de Cluny.
Oui, effectivement, son périple français, surtout en Auvergne, a été, n'est-ce pas, d'abord les abbayes de Cluny et les abbayes qui commençaient à s'ouvrir à Cluny. Ça a beaucoup, la Charité en particulier, et d'autres. Et cet ordre de Cluny, effectivement, je crois que là aussi, l'historien, je dirais même volontairement attentif, peut commettre certaines erreurs. On a lié, lorsque j'étais étudiant, là, vous voyez, ça fait des années, on a lié beaucoup trop la réforme de l'Église à Cluny, en disant c'est Cluny, c'est Cluny, pour la simple raison qu'il y avait eu des travaux sur Cluny. Mais en réalité, beaucoup de grandes abbayes, et en particulier Saint-Victor de Marseille, a été aussi à la pointe de la réforme. Donc il est issu de ce milieu, il est, ce qui est important aussi, pape français, ça ce n'est pas le premier, mais il y en aura beaucoup d'autres par la suite, et il a donc, en tant que français, pseudo-bourguignon, il a donc par conséquent une audience en France qui est peut-être plus importante qu'autrement. Mais il ne faut pas oublier quand même, je le disais tout à l'heure, que à la limite, on pourrait dire qu'il a été chassé d'Italie. Quand il a été élu pape, il a, bon, pendant un certain temps, il a réussi. Il a prêché en deux endroits, à Plaisance en particulier, il est passé les Alpes. Et cette Italie n'est pas vraiment, du Nord en tout cas, n'est pas vraiment à lui. Donc, son obédience, c'est essentiellement française. Sauf l'Île-de-France à l'époque, bien sûr.
Alors, il apparaît comme un pape très volontariste sur le plan politique. Grousset, que je citais en début d'émission, disait qu'il avait mûrement réfléchi cette décision. Est-ce une grande organisation ? A-t-il un schéma en tête dans sa progression ?
Personnellement, j'allais dire, je ne le pense pas, mais je ne veux pas le penser. Parce que c'est un peu, tout à l'heure nous en parlions hors de cette antenne, c'est un peu ce qui nous sépare de Grousset, pour qui j'ai une très très profonde admiration sur son livre en trois volumes, qui est une documentation énorme. Mais à son temps, m'entendre moi parler du temps de Grousset, ça remonte encore plus en arrière. Mais en son temps, si vous voulez, l'historien tente d'expliquer, vraiment, et de faire une analyse à la limite psychologique des personnages, mais généralement nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas le faire. Il ne tombe pas dans le schéma ridicule, n'est-ce pas, celui-là est bon, celui-là est méchant. Non, mais il veut savoir. Or, c'est pas possible. Moi, je dirais, je ne le pense pas, et surtout, je n'ai aucun moyen de savoir s'il faut ou ne pas le penser.
Alors, mais dans la suite des événements, il lancera encore cet appel à la croisade, il le répète.
Tout au long de son voyage. Tout au long de son voyage, et effectivement, une fois que c'est lancé, il envoie même, alors là, la situation était un peu éclaircie, il envoie des légats en Italie. Ils ont prêché à Gênes et à Pise en particulier, puissance maritime.
Alors justement, quel est l'impact ? Il n'y avait évidemment ni radio ni télévision. Comment se répand ce bruit ? cet appel à la croisade et ce qu'il y a d'étonnant, ce succès est du côté des barons, la croisade des barons, et du côté du peuple.
Eh bien,
sans vouloir donner une division binaire à la société.
Non, mais vous allez voir pourquoi il ne faut pas. Bien, je crois que cela a été bien étudié aussi. Il y a en somme deux types de prédications. Il y a une prédication que l'on pourrait dire, je ne dis pas hiérarchique, mais bien organisée, celle ordinaire, je dirais, de l'Église avec une majuscule, c'est-à-dire du pape lui-même, puis dans les conciles, dans les synodes, puis les évêques, puis les abbés et les moines organisés. Et puis alors, précisément, dans le pays non soumis à Rome, il faut bien penser ça, tous les pays germaniques, je dirais, qui sont sous la coupe de l'empereur et des antipapes, les évêques n'ont pas prêché la croisade. Ils ont refusé de le faire. Cette croisade était romaine, ils n'en voulaient pas. Donc, par conséquent, la chose s'est sue quand même et la prédication a été faite par des marginaux. Je dirais des gens hors de l'Église constituée, par ce que l'on a appelé, bon, je sais très bien que l'on a un peu exagéré pour faire folklore une fois de plus, ce qu'on appelait les moines vagabonds, mais quand même, oui, des illuminés, des gens hors de l'Église qui parlaient beaucoup, n'est-ce pas, de l'Apocalypse, du jugement dernier, du malin, de Satan. Et par conséquent, il y a deux types. Vraiment deux types de prédications, et ce qui a fait qu'il y a eu d'un côté une croisade encadrée à la fois par l'Église et par les responsables hiérarchiques de la société, par les barons, si on peut parler comme ça, et d'un autre côté, une croisade qui n'était plus encadrée.
Alors commençons donc par la croisade qui n'est pas encadrée, c'est la croisade des pauvres gens, on l'appelle également la croisade des cathédrales.
Les croisades des cathédrales, c'est tout autre chose. Elles ont existé et on peut expliquer en effet la croisade des pauvres gens de cette façon. C'est les réunions de laïcs de toutes conditions sociales. Ça n'a pas duré très longtemps et ça a été géographiquement limité, ça n'a rien à voir avec Jérusalem, qui se mettaient ensemble pour charrier les pierres pour la construction des cathédrales.
Oui.
C'est ça, en Normandie essentiellement. Oui. Donc on peut partir de là pour expliquer comment, si vous voulez, un mouvement populaire peut atteindre l'ensemble de la population sans qu'il y ait vraiment de grandes prédications organisées. Mais je pense que les pauvres gens ne sont pas partis de là, non, pas du
donc
tout.
Donc ce sont deux choses
vraiment sont complètement différentes.
Alors, le personnage central de la croisade des pauvres gens, c'est l'ermite.
C'est Pierre l'ermite, oui, qui est un homme qui a survécu. Hein. On le voit très longtemps et quand ces ruées de pauvres gens se sont fait malheureusement, n'est-ce pas, massacré dès qu'ils ont pénétré ou à peu près en Asie. Pierre l'ermite n'était pas là, il a survécu et il est ensuite avec les barons. Hein. Ça, il faut bien le dire, il est resté jusqu'au bout. Cette croisade était quelque chose, un enthousiasme, si l'on peut dire, populaire extraordinaire. Ces gens ou bien étaient des marginaux qui n'avaient rien à perdre, mais pas souvent. Pas généralement. C'était généralement des petites gens, artisans, petits paysans, de toutes ces contrées, donc je répète, surtout du monde germanique, mais également vers l'est du royaume de France, qui ont tout vendu et vendu à vil prix pour partir, et puis qui ont pensé que, comme on allait à Saint-Jacques ou ailleurs en ayant la charité tout au long du chemin, ben ça irait comme ça. Et ça n'a pas du tout. Et très vite, ils ont manqué de vivre. Et très vite, ils ont été obligés de ressortir les quelques pièces qu'ils avaient de leur poche pour s'acheter à manger. Et à ce moment-là, très cher. Donc, il y a eu tout au long du parcours, et plus précisément d'abord en Allemagne, en Rhénanie, des combats, des massacres. Ils s'en sont pris aux gens des villes. Il y a alors, effectivement, dans ces gens des villes, qu'ils trouvaient accapareurs, exigeants sur les prix des vivres, et ils ont attaqué, très dur, tout ce qui leur semblait des hommes d'argent, des usuriers. Alors, les Juifs sûrement, mais aussi une certaine histoire vraiment trop simplifiée oublie deux choses. D'abord qu'ils ont massacré de la même façon les marchands chrétiens, exactement de la même façon, et que dans la mesure où des Juifs des villes de Cologne, de Mayence, surtout Mayence, ont pu échapper au massacre, c'est parce que l'évêque du lieu les a protégés ou les a fait fuir dans des villages ou les a pris dans son palais épiscopal. Donc il n'y a, il faut bien le dire, à l'époque, il n'y a pas une volonté de détruire chez ces gens-là le juif parce qu'ils sont juifs. Mmh. Mais parce qu'ils sont usuriers, peut-être pas tous, mais quand ils commencent. Et après, ils ont fait la même chose en Hongrie. Ils ont fait la même chose partout où ils sont passés. Oui, ça, c'est
sûr. On retrouve souvent dans l'histoire de l'Église cette, j'allais dire, ce décalage entre, d'un côté, le pouvoir institutionnel, vous montrez l'évêque qui protège les juifs, et de l'autre côté.
Par la suite aussi, oui, c'est arrivé en plusieurs moments. Ça, c'est sûr. La fureur populaire est indescriptible, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui s'est passé. Nous allons certainement avoir l'occasion d'en parler un peu. Lors des massacres à Jérusalem, c'est pareil. On essayait d'éviter ça. Mais vous ne pouvez pas tenir une foule de gens affamés, qui ont souffert, tout, qui savent qu'ils ont été grugés, parce que, on ne sait pas par qui, mais quand ils ont vendu, vous pensez quand vous êtes dans un village, et vous savez qu'il y a 100 ou 200 personnes qui veulent vendre leurs terres et leurs vaches, et que les prix, n'est-ce pas ? Eh bien, ensuite, ils savent qu'ils ont été trompés. Ils se vengent, c'est entendu.
Alors, vous montrez bien dans votre livre qu'il y a d'un côté ces déviations et de l'autre côté, il y a cette croisade des pauvres gens de Pierre l'Ermite qui, elle, va jusqu'à Constantinople. À Constantinople, bien évidemment, ils ne peuvent pas rentrer.
Ah non !
Et ce sont les autorités qui font passer les pèlerins de l'autre côté en Asie orientale.
Pour s'en débarrasser. Oui. Parce qu'autrement, ils allaient rendre la vie de Constantinople impossible. Oui. Ils étaient, on ne sait pas combien, inutile de parler de chiffres, ce serait complètement arbitraire. Mais ils auraient pu donner l'assaut déjà, n'est-ce pas, pu s'introduire. Alors on s'en est débarrassé comme ça, on les a nourris aussi, oui. Et puis alors, nous arrivons, je crois qu'il faut y arriver, à la croisade des barons, n'est-ce pas ? Les croisades.
Si vous le voulez bien, nous allons évoquer ce point après une autre pause.
Écoutez Canal Académie.
Un jour dans l'histoire reçoit Jacques Herz, ancien professeur à la Sorbonne, ancien médiéviste. Il évoque pour nous une période ô combien troublée qu'est cet appel à la croisade en 1095. Alors il y a, nous l'avons évoqué, d'un côté la croisade des pauvres gens qui est un échec total et de l'autre côté il y a une croisade qui elle est organisée qui est la croisade dite des barons.
Oui, c'est une croisade, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est la même prédication des lieux différents et ils se sont retrouvés à Constantinople, mais en réalité, là déjà, voyez-vous, l'erreur est là, c'est de dire une croisade. Bon, là, je vais ouvrir, pas trop longtemps, une parenthèse en disant que nous sommes, j'y faisais allusion tout à l'heure, vraiment quelquefois très gênés par le désir de simplifier, la numérotation même des croisades est ridicule. Une, deux, trois, deuxième, troisième, quatrième. Bon. Mais là même, dès le début, on commet l'erreur en disant « la croisade des barons ». Il y a eu quatre armées complètement différentes qui ne venaient pas des mêmes régions, qui n'ont absolument jamais suivi le même itinéraire et qui n'ont jamais été ensemble. Alors, résumons, il y a celle très connue de Godefroy de Bouillon, n'est-ce pas, les Lorrains, hein, il y a là. Celle beaucoup plus importante, semble-t-il, de Raymond de Toulouse, deux, disons, les Languedociens, Provençaux, etc. Les Normands d'Italie du Sud. 3 et 4, les Normands et Anglais de Normandie et Angleterre. Ils n'ont absolument pas pris le même chemin, n'est-ce pas ? La seule qui ait fait un chemin uniquement terrestre est celle de Godefroy de Bouillon. Ils sont arrivés à 8 jours d'abord et même 2 mois d'intervalle à Constantinople. Ça n'a rien à voir.
Alors, pour parler un langage contemporain, il n'y a pas de commandement de militaire unifié.
Ah non, pas du tout. Puis alors, même par la suite, ça a été terrible. Lorsqu'ils font le siège d'Antioche et même Jérusalem, chaque croisade, disons, chaque armée a son camp différent. Et après, ils ne sont pas toujours d'accord pour savoir s'il faut partir tout de suite ou comment on va se partager, ce qu'il y a. La chose, ceci déjà doit, je crois, ces quatre armées bien mises en place. Mais ce qui est beaucoup plus important, et là, je pense que c'était tout ce qui a été écrit en 1995 à ce sujet qui a mis l'accent là-dessus. J'ai essayé de le faire aussi dans mon livre, peut-être pas le premier, mais quand même en insistant beaucoup. Ce n'est pas une armée qui part. Ce n'est pas une armée. C'est une foule, un peuple de pauvres gens, eux aussi très nombreux, encadrés par une minorité de guerriers. Vous voyez ça ? C'est extrêmement important. Ces gens-là, on dit, ils sont allés à la conquête de Jérusalem, on pense un peu à Guillaume le Conquérant, n'est-ce pas, la conquête de... C'est rien de comparable, n'est-ce pas?
Vous dites dans votre livre, en fait, on l'imagine partant avec l'épée, alors que finalement, une épée, ça coûte cher, une épée, ça se perd.
Oui, oui, oui. Donc, absolument. Non, mais surtout, ils ont vu dans ces pays qui étaient quand même dans l'obédience pontificale. Bien sûr que les seigneurs, les nobles, les princes ont participé, mais le peuple n'est pas resté inactif. Il a couru, il a dit « emmenez-moi », et ils sont allés. Alors, bien entendu, on ne peut absolument pas faire de proportion, ni donner quelques chiffres que ce soit, mais les chevaliers, disons les combattants, étaient infiniment moins nombreux que les autres. Vous vous rendez compte du travail, il fallait nourrir. Ils ont dépensé un argent fou, puis quand ils n'ont plus d'argent, évidemment, mais ils ont cherché à être ravitaillés un petit peu dans les villes byzantines, ici et là.
Il est impossible de mettre un chiffre.
Absolument impossible. Je crois que, non pas seulement pour ça, je le dis encore tout récemment, je parlais avec un de mes collègues à propos de toute autre chose. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous vous rendez compte, nous n'avons aucun texte, et même s'il y avait des textes, ils sont toujours très critiquables. Je vais être très franc en ce moment. Personnellement, je suis sans doute excessif, mais je me bats toujours pour ça. Enfin, actuellement, nous ne savons pas quelle est la population de la France. Vous voudriez qu'on sache combien il y avait de croisés avec Godefroy de Bouillon. Enfin, c'est pas croyable. Il y a la moindre manifestation dans Paris, vous ne savez pas combien ils sont.
Dans cette croisade des barons, il y a un mythe, ou plutôt, il y a un personnage qui reste dans l'histoire, c'est le chevalier du Christ.
Oui, ça, je crois que c'est vrai. Alors, évidemment, le mot qu'il faut considérer, analyser, est celui de guerre sainte. On vous dit une guerre sainte. Et j'ai quelques collègues, et ça je ne suis pas du tout d'accord avec eux, collègues spécialistes de l'islam, je dois dire que la guerre sainte, n'est-ce pas, par la suite des musulmans, a été une réplique à cette guerre sainte de la croisade. Non, c'est une guerre sainte si l'on veut, dans ce sens que c'est les armées, les gens qui vont combattre, les gens qui vont risquer le voyage et la vie, qui vont perdre leur fortune, le font pour servir leur religion, ça sans aucun doute. Et tous les récits le disent, et ils voient même les anges qui combattent à leur côté. C'est très net. Ceci dit, je crois qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus, sur cette façon de montrer les anges qui combattent. On retourne presque à certaines épopées de la Grèce ancienne, n'est-ce pas, où Athéna ou les autres intervenaient aussi. Je crois qu'ils ont été nourris de ça. Mais l'important est de dire ceci, c'est qu'ils n'allaient pas combattre l'islam, car ils ne... À l'époque, je prends bien la première croisade, car à l'époque, ils n'avaient aucune idée de ce qu'était l'islam. Ils ne savaient même pas que les Turcs, les Arabes et les Égyptiens étaient musulmans. Aucune idée. Ils n'emploient jamais, à aucun moment, ils n'emploient le mot de musulman ou de Mahomet. Ils n'existent pas dans aucun des quatre grands récits que nous avons. Ils sont des récits de témoins, n'est-ce pas, de gens qui ont été avec eux, des clercs qui étaient là. Ils emploient un mot général de sarrasin, qui veut rien dire, puisqu'ils l'emploient à tout. Puis alors infidèle, ou alors là, je ne les ai pas en tête tous, mais c'est la panoplie, si j'ose dire, la liste plutôt, est invraisemblable. Tous les souvenirs bric-à-brac de l'Antiquité qui s'amènent, les Perses, les Mèdes, les Assyriens, les Babyloniens, tout ce que vous voudrez. Ils n'emploient jamais le mot de musulman. Et aucun ne parle l'arabe de tous ces gens-là. Et ils n'ont surtout pas essayé d'évangéliser, puisqu'ils ne savaient même pas comment s'y prendre.
Et Rome, dans tout cela, Rome n'a même pas cette vision de l'islam?
Ah non, non. Non, Rome n'a pas cette vision de l'islam, où Rome a eu une politique, je ne crois. À un moment, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on pouvait penser qu'Urbain II l'avait, je crois même l'avoir écrit quelque part, mais il y a très longtemps. Pour tout vous cacher, le sujet d'histoire médiévale, quand j'ai passé l'agrégation, était Urbain II, vous voyez? Alors, je crois que là, j'ai dit, oui, il veut la réunion des églises. Je ne le pense plus. J'ai le droit de changer en un si grand nombre d'années. Mais ce qu'il, pas lui, parce qu'il est mort 2 ans plus tard, mais par la suite, ce qui s'est produit, c'est qu'il est possible, que la papauté ait pensé faire de Jérusalem un état religieux pontifical comme Rome. Ça, c'est vrai. Et je crois là aussi que nous ne faisons pas assez attention, souvent, j'étais dans le coup, également dans l'erreur, au mot avoué du Saint-Sépulcre qu'a pris Godefroy de Bouillon. On dit, il ne veut pas être roi, alors il va pouvoir. Puis on dit, ben pourquoi pas avouer ? Non, avouer du Saint-Sépulcre, c'est une signification juridique de l'époque très nette, un avoué est le laïc protecteur des biens de l'Église. Donc le Saint-Sépulcre, à savoir Jérusalem, devenait bien de l'Église.
Un état pontifical.
Un état pontifical. Et le premier patriarche qui est arrivé, dans le premier, ils ont élu un hurluberlu, alors là, un homme qui n'était absolument pas recommandable. Aussitôt est arrivé un patriarche de Pise, qui avait été archevêque de Pise, et lui, il voulait absolument mettre le roi de Jérusalem à sa botte, n'est-ce pas, lui dire, mais il a échoué. Donc, voyez-vous, peut-être pouvons-nous terminer là-dessus, sur les intentions de l'Église, mais qui ne se sont développées, à mon sens, qu'après la mort d'Urbain II.
Car au fond, vous le disiez au début, le moteur de cette croisade, avant tout, c'est de récupérer le droit au pèlerinage, au fond.
Oui, et ça a été réussi. Et ils ont réussi. Et je crois même que là aussi, nous faisons une erreur d'interprétation quelquefois, lorsque beaucoup plus tard, alors là, d'autres croisades, on parle que les chrétiens ont échoué avec Richard Cœur de Lion, avec Frédéric II. Non, dans la mesure où ils ont fait la paix et ils ont abandonné l'idée de croisade, c'est parce que les pèlerinages étaient assurés. Donc à ce moment-là, il n'y avait plus vraiment lieu. Ils ont abandonné leur idée de maintenir un état politique qui était vraiment là une déviation de la croisade, c'est sûr.
Est-ce qu'on peut inscrire, et ce sera le mot de la fin, est-ce qu'on peut inscrire cette croisade dans le vaste mouvement de la réforme grégorienne ?
Oui, dans la mesure où il a amené les chevaliers, les combattants, à l'idée qu'ils pouvaient servir la religion. Je crois que c'est cela.
Eh bien, c'est sur ces mots, Jacques Herz, que nous allons nous quitter. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ancien professeur à la Sorbonne, ancien directeur du département d'études médiévales de cette prestigieuse université. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Je vais me contenter de citer Les Négriers en terre d'islam, la première traite des Noirs, 7e, 16e siècle, aux éditions Perrin, paru l'année dernière. Il y a également la réédition de votre livre La Première Croisade dans la collection Tempus, toujours aux éditions Perrin. Et vous êtes en préparation d'un ouvrage qui est sur, au fond, le pendant de notre émission, qui est un ouvrage consacré à 1453, à la chute donc de cet empire romain d'Orient. Jacques Herz, je vous remercie.
Et je vous remercie aussi.
Et je donne rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.